Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le porte-parole de la candidate Marine Le Pen, maire RN de Perpignan. Question-réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Bonjour Louis Alliot.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Nous sommes au milieu de la campagne du second tour. Nous entrons dans la seconde semaine dont le point d'orgue sera le débat télévisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen mercredi soir. Si on regarde les sondages, les intentions de vote restent serrées, mais Emmanuel Macron accentue légèrement son avantage. Dans ce contexte, Louis Alliot, pensez-vous que Marine Le Pen peut encore être élue présidente de la République ou que cette perspective s'éloigne ?
Non, je pense qu'on est encore dans la course, évidemment. Que ces sondages donnent, j'allais dire, une photographie de l'instant, mais que M. Macron accumule depuis la semaine dernière un certain nombre de visites sur le terrain, où l'on voit quand même la mobilisation de ceux qui n'en veulent plus. Son meeting à Marseille, on peut pas dire que ce soit la foule des grands jours. Et puis surtout, l'utilisation de la thématique de l'écologie comme cela, entre les deux tours, alors qu'il n'en avait jamais parlé avant.
Il n'en avait pas jamais parlé avant.
Je suis persuadé qu'un certain nombre de personnes trouvent que la ficelle est un peu grosse et qu'évidemment il va chercher des électorats pour agréger à lui des votes qui ne se sont pas reportés sur lui au premier tour. Voilà.
Alors vous dites il multiplie les déplacements sur le terrain. Vous nous dites ça ce matin, c'est pas faux. Paradoxalement, Gabriel Attal à l'instant déclare Marine Le Pen fait elle une campagne en charentaise. Emmanuel Macron lui est partout depuis le premier.
C'est confortable, les charentaises, vous savez.
Ah, donc vous assumez le fait de faire une campagne en charentaise ?
Non, on assume le fait d'avoir fait une campagne depuis 8 mois sur le terrain, pendant que M. Macron se planquait à l'Élysée derrière sa politique étrangère. Il ne parlait de rien, profitait de mouvements d'opinion. Il a même profité, malheureusement, de cette abominable guerre en Ukraine au départ. Et puis aujourd'hui, il se trouve qu'il est dans un duel serré. Il s'aperçoit qu'il faut faire campagne. Donc il va voir un peu comment ça se passe. Et là, il voit quand même que tous les gens qui ont été dans la rue depuis 5 ans, eh bien, il les a sous son nez lors de ses déplacements. Et c'est pas aussi évident qu'il ne le pensait sûrement.
Emmanuel Macron dit que le Front Républicain n'existe plus. Mais ces derniers jours, on a vu un certain nombre de professions qui ont pris la parole pour dire non à Marine Le Pen. Vous les avez vues, les tribunes des artistes, des sportifs, des avocats, des économistes, des personnels du monde de la santé. Ces pétitions, ces tribunes qui disent il faut pas que Marine Le Pen prenne le pouvoir. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore chez vous un plafond de verre, aujourd'hui en France un plafond de verre qui l'empêche d'accéder à la dernière marche ?
Non, je pense que ce sont des tribunes qui peuvent d'ailleurs mobiliser celles et ceux qui doutaient encore que Macron était l'homme du système. Moi, je l'ai vu et puis on le voit à chaque élection. Moi, si je prends mon propre cas, j'avais un Front Républicain contre moi, les artistes s'étaient mobilisés, le monde sportif, associatif, etc. Puis à la fin, le peuple décide. C'est un peu tout ça quand on voit des grands sportifs qui vivent quand même avec des moyens très importants, des gens de la culture, des médecins, des choses comme ça. Les gens se disent, oui, tout ça c'est bien joli, mais eux sont à l'abri du besoin.
Même les rugbyman qui gagnent
oui,
pas des millions,
hein.
Ils ont signé la tribune.
Enfin, j'ai vu Denis Charvet, qui est pour moi de ma génération, je veux dire, qui a dit qu'il ferait bien de se taire parce que quand on est sportif, on est sûrement très compétent dans sa matière, mais on l'est un peu moins sur le reste et ses engagements ne veulent pas dire grand-chose, en fait.
Louis Alliot, dans quelle mesure pensez-vous que le débat télévisé Emmanuel Macron-Marine Le Pen sera crucial dans la décision finale des électeurs ? Marine Le Pen a reconnu qu'elle avait raté celui de 2017. À vos yeux, quelles sont les erreurs qu'elle a commises la dernière fois et qu'elle ne doit surtout pas commettre à nouveau mercredi ?
Je pense qu'elle doit prendre du temps, tout simplement. Voilà, elle doit arriver détendue. Je pense que le programme, elle le maîtrise. Elle voit très bien où vont porter les attaques de Monsieur Macron. Et on le voit sur les plateaux tous les jours par rapport à ses ministres. Donc voilà, elle s'y prépare.
Elle sera attaquée sur quoi ?
Il faut être serein. Oh, ben, c'est toujours les mêmes choses. Vous savez, depuis le départ, on voit la Russie. Quand c'est pas la Russie, c'est la politique économique, que sais-je encore. En fait, tout ça, si vous voulez, ça s'explique, ça se discute, c'est le débat. Et l'avantage de ce débat, de ce deuxième débat, en fait, c'est que M. Macron n'est plus dans la même position. La dernière fois, c'était le petit nouveau, soi-disant très compétent, ministre de l'économie, qui était passé dans un trou de souris pour damer le pion à Hollande au dernier moment. Là, il est le président de la République et il a un bilan. Et ça va pas être la même histoire. Parce que quand même, depuis qu'il est président de la République, il y a eu un certain nombre de choses. Et ce certain nombre de choses, les gilets jaunes, le début de la gestion de la crise, tout le monde se souvient des masques, des respirateurs, des problèmes dans les hôpitaux, etc., etc. Tout ça, j'espère.
C'est sur ça qu'elle va attaquer.
J'espère, Madame Salamé, que ça fera partie du débat.
Ah bah ça dépend des candidats, vous savez, hein, dans ce débat d'entre-deux-tours qui est très très normé, c'est eux qui décident. Bien sûr, c'est eux qui décident sur quoi elle va aller. Je veux dire, c'est pas à moi de dire à Marine Le Pen de faire le bilan d'Emmanuel Macron.
Donc il y a des grandes thématiques.
Ah bah bien sûr, ça, les thématiques elles sont tranchées par nous, ça par contre, ça c'est certain.
Voilà donc pour ce petit point, Marine Le Pen a renoncé en février dernier à son projet de fixer à 60 ans l'âge de départ à la retraite pour tous. Désormais, cette mesure est réservée à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui auront cotisé 40 ans. C'est bien ça, Louis Alliot ?
Oui.
C'est bien ça. Dites-nous, quel pourcentage d'une génération partira à 60 ans ? Est-ce que vous avez fait ces projections-là ? 10, 15, 20% ?
Écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste de la question, je n'ai pas vocation à être ministre de l'économie, et donc je m'en tiens à cette notion, j'allais dire ce principe. La retraite à 60 ans, pour ceux qui ont commencé à travailler de 17 à 20 ans, et 40 ans d'annuité, ouais. Et 42 ans d'annuité pour ceux qui commencent à travailler après. Tout simplement parce que ceux qui commencent à travailler de 17 à 20 sont souvent ceux qui ont des travaux plus pénibles que ceux qui commencent à travailler plus tard, qui sont plutôt des travaux intellectuels.
Donc ça, on a compris. Pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans, on a compris qu'ils pourront partir à 60 ans. Mais en fait, ceux qui ont commencé à travailler après, à 23, 24 ou 25 ans, prenons celui qui rentre sur le marché du travail à 25 ans, en revanche, il devra attendre l'âge d'annulation de la décote. Il faudra attendre qu'il fasse ses 42 annuités. Donc en fait, il partira à la retraite. Celui qui est rentré sur le marché du travail à 25 ans, il partira à 67 ans. Ça ne change rien par rapport au système d'aujourd'hui.
Si
vous ne changez pas grand-chose.
Par rapport au système d'aujourd'hui.
Je comprends pas comment je gagne un an.
Vous gagnez un an par rapport à... C'est parce que c'est 42 annuités. Et par rapport à... Mais c'est normal. Je veux dire, celui qui commence sa vie professionnelle à 25 ans, il peut pas arriver...
Il y a pas de problème, mais on veut juste comprendre ce qui change avec Marine Le Pen si elle est élue présidente.
Oui, c'est un système qui est beaucoup plus proportionnel et juste. Voilà. C'est jusqu'à 20 ans pour les travaux pénibles, ben, vous avez 40 annuités et vous partez à 60 ans. Et pour le reste, c'est 42 ans d'annuités et vous partez à 62 ans. Vous pouvez partir à 62 ans. Mais si vous n'avez pas les annuités et que vous voulez votre retraite pleine, eh bien, il vous faut continuer à travailler. Voilà.
Sinon, vous partez avec une décote. Ou alors, il faut attendre 67 ans pour l'annulation de la décote.
Vous partez, effectivement. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est assez juste. On n'imagine pas quelqu'un. J'y reviens parce que c'est important.
Oui, c'est important. Mais ce qu'on essaie de vous dire, c'est que la grande réforme de Marine Le Pen jusque-là, jusqu'à ce qu'elle ait changé d'avis, c'était là. C'est 60 ans pour tout le monde. Aujourd'hui, mise à part si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, en fait, ça ne change pas par rapport à aujourd'hui.
Oui, mais il y a un principe de réalité, ça coûtait très très cher. Là, on l'a chiffré, et ça tient compte aussi de ce rapport budgétaire. Mais ça tient compte aussi du fait qu'on ne peut pas commencer sa vie à 25 ans par rapport à quelqu'un qui commence à 17 ans, et puis partir à la retraite pratiquement au même âge, en ayant une retraite pleine pour les deux. Parce que l'inégalité, elle est majeure pour celui qui a commencé à 17 et pour celui qui a commencé à 25.
Ce que je veux dire, c'est que, mis à part pour les moins de 20 ans, ceux qui ont commencé avant 20 ans, il n'y a pas de réforme des retraites sous Marine Le Pen.
Ah ben si, il y a une réforme des retraites.
Uniquement pour ceux qui ont commencé avant 20 ans. Pour le reste, ce sera la même chose.
Ah oui, mais c'est important parce que c'est les travaux les plus pénibles, vous comprenez? Quand vous êtes sur un chantier et que vous soulevez des briques toute la journée, c'est pas pareil d'avoir 40 annuités et de partir à 60 ans que celui qui a un travail intellectuel, qui est peut-être un peu moins dur physiquement et qui peut faire quelques années de plus.
Venons-en, Louis Alliot, à l'écologie, alors que le rapport du GIEC sonne l'alarme et ne nous donne désormais plus que 3 ans pour engager la grande bascule. Vous écrivez que la France figure dans les 5 pays où l'environnement est le moins dégradé, le RN poursuit. Pourquoi punir les Français? Ce n'est pas aux Français de payer pour les fautes des autres. Doit-on en conclure qu'on n'a rien à faire de plus avec 5 ans de Marine Le Pen? Aucune mesure de plus, rien de plus ne sera fait pour lutter contre le changement climatique?
Non, c'est pas vrai, parce que d'abord, on a dit qu'on ne remettait pas en cause, évidemment, les accords de Paris, que deuxièmement, on était, nous, pour une diversification, ce qu'on appelle le fameux mix énergétique en mettant le paquet sur l'hydrogène et sur le nucléaire, entre guillemets, propre, les microcentrales et d'autres centrales nucléaires.
Et vous dites aussi qu'on est les bons élèves et qu'il faut sortir de la punition, l'approche punitive contre les Français.
On est des bons élèves, ce n'est pas la peine non plus de pénaliser les Français. Et en revanche, on peut dire à nos partenaires européens, c'est à vous aussi de faire beaucoup plus d'efforts. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, par rapport à la Russie, par exemple, on se rend compte que l'Allemagne nous a mis dans le sac, entre guillemets, en étant dépendante de la Russie et du gaz russe à 70%, alors que, heureusement pour nous, et grâce à notre nucléaire, nous ne sommes dépendants qu'à 20%.
Pas que grâce au nucléaire, grâce aux éoliennes aussi, que vous voulez démanteler. Mais vous le dites vous-même, dans cette période de crise écologique redoublée par la guerre d'Ukraine, est-ce sérieux de démanteler cette source d'énergie que sont les éoliennes?
Alors, démanteler est un grand mot. Ne pas renouveler, je dirais.
Ah non, elle veut les démanteler.
Non. Ne pas les renouveler, c'est-à-dire ne plus donner d'aide pour en installer et attendre la fin de vie de celles qui y sont avant de passer à autre chose.
Ça, j'entends, mais c'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est que vous voulez les démonter.
Non, ce n'est pas vrai. Alors, je l'ai expliqué hier sur un autre truc. On ne va pas se promener avec nos clés à molette à la main pour le lendemain de l'élection pour démonter les pylônes. Il faut quand même arrêter les... Vous savez, les éoliennes, c'est des contrats. Ces contrats, elles sont passées souvent avec des mairies. Ça permet à des toutes petites mairies de pouvoir vivre, etc. Donc, on ne va pas casser tout ça. C'est pas vrai. Ça va prendre 10 ans. Le démontage peut progressif.
Vous êtes revenu sur, sur ce que vous disiez.
Mais non, on l'a expliqué, c'est de la pédagogie. Oui. Et pendant ce temps-là, j'espère que la recherche d'ailleurs fait d'énormes progrès. Le photovoltaïque, moi je donne des exemples précis. À Perpignan, vous avez un marché Saint-Charles, 68 000 mètres carrés de bâtiments qui sont totalement en photovoltaïque et qui produisent 10% de la consommation d'énergie de Perpignan. Tout cela dans des endroits où on peut le faire, il faut le faire. Et en matière d'écologie, encore une fois, vous savez, on n'est pas... Il faut arrêter de penser qu'on est anti-écologique. Moi, je prends toujours un exemple qui est le mien, puisque c'est celui que je connais le mieux. Nous avons planté à Perpignan 4500 arbres et 6000 en prévision. C'est-à-dire que dans les 3 ans, nous aurons planté à peu près 10 000 arbres supplémentaires que ceux qu'il y avait. Tout ça, c'est des petites choses. La végétalisation des écoles, la transformation de l'irrigation. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de sujets écologiques qui ne font pas l'actualité, mais qui sont très importants pour la vie et le quotidien des Français.
Alors, Louis Alliot, pendant toute cette campagne, Marine Le Pen l'a dit clairement, elle veut interdire le port du voile dans l'espace public. Mais depuis ce week-end, ça semble beaucoup moins clair. Marine Le Pen dit désormais que le voile est un problème complexe. Jordan Bardella disait hier que ça n'était pas l'urgence, pas une priorité. Est-ce que vous rétropédalez maintenant sur cette mesure phare de votre programme ?
Écoutez, je pense qu'on explique mieux. Ah. Voilà, c'est pas pareil. Non, mais c'est important. Mais
pardon, vous avez expliqué ça sur tous les plateaux pendant des mois. On interdira le voile dans la rue et dans le métro, dans tout l'espace public. Et aujourd'hui, vous expliquez que
vous avez sorti une mesure de tout un arsenal pour lutter contre l'islamisme, et ça en fait partie. Il n'en demeure pas moins que, à mon avis, il faut y aller progressivement, dans les services publics d'abord, puis ensuite s'attaquer à cette idéologie et aux organismes qui la portent en France, notamment par le biais de l'ancienne UOIF, qui s'appelle aujourd'hui les musulmans de France. Or, ça n'a rien à voir avec les musulmans de France, je regrette. Mais ils ont pris ce mot-là. Donc, les musulmans de France, d'ailleurs, appellent à voter pour Emmanuel Macron, alors que je pense que l'immense majorité des musulmans qui vivent en France et qui sont français, eux, n'ont pas tout à fait la même opinion que ces musulmans de France.
Est-ce que le voile sera interdit si Marine Le Pen est élue dimanche prochain? Il y aura
une politique volontariste, voilà, qui mettra fin aux visées de l'islamisme radical sur notre sol, qui commencera par l'interdire dans les services publics et qui, par voie de conséquence, limitera dans la rue sa visibilité.
Mais ça veut dire ça quoi, limitera dans la rue sa visibilité? Ça veut dire, parce que, pardon, Marine Le Pen, on lui a posé la question il y a 3 semaines. Elle a dit oui, il y aura une amende sur chaque femme qui porte le voile dans la rue.
On lui demandait comment faire. Alors,
elle disait qu'il y aura une amende,
oui, comme
135 euros.
Comme ceux qui portaient
la ceinture de sécurité.
Depuis, elle a expliqué, je crois que c'était avant-hier sur le marché, et elle a dit d'abord...
Sur le marché, face à une dame âgée qui lui disait « moi je le porte depuis que je suis âgée
oui, et que je suis grand-mère ».
Et elle en a vu une autre qui lui a dit « je ne le porte que depuis que j'ai 50 ans », etc. Donc je veux dire, c'est une affaire compliquée, ce sera un débat parlementaire, et à ce moment-là, le choix sera fait. Mais il faut une politique qui tend petit à petit vers l'interdiction du voile l'espace public.
Les grands-mères pourraient avoir le droit de le porter.
Je ne sais rien, enfin, les grands-mères
au-delà d'un certain âge.
Écoutez, moi je suis très ami avec, vous le savez, la communauté harki, et je connais beaucoup évidemment de mamans de harki ou de femmes de harki qui le portent quelquefois. C'est une question qui est pas facile, mais là où tout le monde s'accorde, c'est que c'est une question qui marque aujourd'hui une appartenance politique à une idéologie. La preuve, moi je la prends, il y a encore 2 ans en Algérie, vous avez des femmes qui se sont levées massivement pour ne pas être victimes de la pression sociale et communautaire qui s'exerce sur elles et qui vise à l'obligation de le porter. Donc moi je ne veux pas qu'il arrive en France ce qui arrive malheureusement en Algérie et ailleurs, et c'est pour ça qu'à une certaine époque d'ailleurs, beaucoup de chefs d'État arabes l'avaient interdit sur leur territoire. On pense évidemment à Nasser et à Bourguiba.
Alors, sémantiquement, on voit que vous évoluez. On voit bien que sur les éoliennes, ce qui est prévu dans le programme, c'est de les démanteler. C'est écrit, hein. On démantèlera progressivement les éoliennes. Là,
progressivement.
Oui, d'accord. Mais là, ce matin, vous dites non, on ne les démantèlera pas. Sur le voile, c'est qui a écrit dans votre programme.
Ne me faites pas dire ce que j'ai pas.
Sur le voile,
progressivement.
D'accord. Voilà. Sur le voile, il n'y a pas de progressivement. C'est le voile sera interdit dans l'espace public. Là, vous expliquez que on verra le débat.
Vous n'allez pas défendre le voile, quand même.
Est-ce que c'est le sujet?
Mais le problème, il
le
est
sujet,
là.
Le sujet, c'est ce que vous avez écrit dans votre programme.
Oui, mais je vous l'explique comment nous ferons. Mais on en est arrivé à un point où on est obligé de s'expliquer et presque à dire, et vous d'ailleurs, à défendre le voile, alors que
on pose des questions pour essayer de comprendre. Dans 5 jours, il y a une élection présidentielle. Il y a écrit dans un programme d'une des deux candidates, le voile et les signes religieux seront interdits dans l'espace public. On essaie de vous expliquer.
Je viens de vous l'expliquer. Le débat parlementaire, les services publics et, je rappelle, plus de 60% des Français sont opposés au voile dans l'espace public. Voilà. Ça fait résonance quand même à ce que pense une majorité de Français. Voilà.
Bon, on va passer au standard où il y a encore une question sur les éoliennes. C'est Philippe qui la pose, il habite Cahors. Bonjour et bienvenue.
Merci de prendre ma question. Bonjour Monsieur Alliot.
Bonjour.
J'aimerais que vous m'expliquiez plus en détail votre opposition aux éoliennes. J'entends par là, c'est pas du tout agressif, mais mis à part de dire que ça défigure le paysage, c'est une des questions d'appréciation. Par exemple, je vais pas une zone à Narbonne vers l'autoroute que vous devez connaître.
Ah oui.
Moi, je trouve que ça c'est plutôt beau. C'est sur la gauche de l'autoroute. Le bruit, bien sûr, il faut pas les mettre n'importe où non plus, mais là, ça en fait pas plus que l'autoroute. Non recyclable, le pylône peut-être, mais actuellement, mais on pourra se progresser. Ça consomme pas d'espace. Un socle pour une éolienne, c'est 400 mètres carrés, donc on peut le mettre.
C'est 10 tonnes de béton à peu près.
Mais ça consomme pas d'espace.
Oui, mais c'est 10 tonnes de béton.
On peut le mettre dans, mais durable. Enfin, pour longtemps.
Ah, ça, c'est durable.
On peut le mettre dans des champs agricoles, contrairement aux photovoltaïques, pas sur les toits, mais qui consomment de l'espace. Sur la pêche, là, il faut voir avec les pêcheurs. Mmh. Mais ça va prendre non plus.
Les oiseaux, les chauves-souris.
Non, je connais.
Vous avez l'air de bien connaître le sujet, Philippe.
Les oiseaux.
Qu'est-ce qui fait le cœur de l'opposition du RN aux éoliennes? C'est ça la question que vous pose Philippe. Louis Alliot, que pouvez-vous répondre à notre auditeur? Le cœur même, hein, au-delà de défigurer le paysage.
Ah oui,
voilà ce qui était la question.
Oui, mais c'est déjà une atteinte écologique, défigurer un paysage. Ensuite, il y a l'histoire des espèces naturelles qui vivent dans ces zones-là. Vous avez les oiseaux. Moi, j'ai lu des choses sur les chauves-souris. Voilà. Il y a quand même un milieu naturel qui est perturbé par ces éoliennes, en plus quand même de la modification du paysage, et la multiplication de ces éoliennes, qu'on le veuille ou non, ne remplacera jamais ce que peut apporter le nucléaire, demain l'hydrogène, ou même l'exploitation de nos déchets, parce que vous avez aussi cela qui est en jeu dans le mix énergétique, et donc petit à petit, je pense qu'il faut essayer de contenir évidemment l'expansion de ces éoliennes en ne les finançant plus et en limitant dans le temps la durée de vie pour les remplacer par une autre énergie propre qui petit à petit sort sur le marché des énergies. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Et moi, je considère que dans la plaine du Roussillon, par exemple, à côté de Perpignan, toutes ces éoliennes sont une atteinte à quelque chose qui avant, le canigou, les coteaux des corbières, etc., était magnifique. Bon, mais aujourd'hui, vous avez des ventilateurs plantés au milieu d'un champ.
On retourne au standard où Nadine nous attend. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci. Alors, ma question à Louis-Marie. Comment faire confiance à une candidate qui a un prêt...
C'est monsieur Louis Alliot, Nadine.
Pardon.
Non, il n'y a pas de problème. Allez-y.
Comment faire confiance à une candidate qui a un prêt de 9 millions d'euros avec une banque russe, qui a des liens avec Poutine, et qui est accusée d'avoir détourné à de multiples reprises des fonds européens. Candidate qui s'autoproclame exemplaire.
Mais écoutez, merci pour cette question, Louis Alliot.
Alors, je vais vous répondre. Je suis prêt à accepter l'adresse de la banque que vous me donnerez pour refinancer ce prêt de 9 millions, parce que vous pouvez pas à la fois tolérer un système qui nous empêche d'emprunter de l'argent en France et nous reprocher d'aller l'emprunter ailleurs. Nous ne devons rien, monsieur Poutine, mais il y a un contrat de prêt et nous remboursons tous les mois des échéances, comme vous, très certainement, vous avez un prêt. Quant aux fameuses enquêtes, je ne savais pas que vous étiez juge ou enquêtrice, on verra le résultat des courses au moment où les procès se tiendront.
Non, juste factuellement, qu'il s'agit d'un rapport de l'Office européen de lutte anti-fraude, l'OLAF. Le Parlement européen réclame plus de 600 000 euros de fonds publics qu'il estime détournés par Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch et vous-même sur une période allant de 2004 à 2017. Je donne simplement les faits. Cet argent aurait été utilisé pour financer le Front National ou des dépenses personnelles. Le rapport a été transmis au parquet de Paris le 11 mars.
Est-ce que vous pouvez...
Voilà, pour analyse avant éventuelle ouverture d'une enquête préliminaire.
En ce qui me concerne, voilà. Vous devriez le préciser. Je suis devant vous sur le plateau. C'est 2500 euros, hein, et pas 600 000. Donc je tiens à le préciser quand même. Pour le reste, c'est le fameux même organisme qui est en train et qui a poursuivi messieurs Bayrou et Mélenchon pour les mêmes faits. Donc j'espère qu'il y aura un jour un procès et qu'on arrivera à déterminer précisément quand on est député européen, on fait de la politique et on conteste formellement tout ce qui nous est reproché dans cette affaire.
Sur la Russie et sur l'Ukraine, Marine Le Pen a surpris la semaine dernière en disant qu'elle prenait un rapprochement de l'OTAN avec la Russie dès que la guerre contre l'Ukraine serait terminée. Elle a surpris notamment Robert Ménard, qui s'est mis en retrait de votre campagne juste après ses déclarations. Et il a dit pourquoi. Il a dit il y a des bombes qui tombent sur des gens en ce moment. Vous n'allez pas leur parler d'un rapprochement avec les Russes, avec les types qui sont les auteurs de massacres, de viols et de crimes contre l'humanité. Et il précise aussi sur Orban qu'il a dit à Marine Le Pen, qu'est-ce que tu vas t'afficher avec Orban. Orban, c'est pas un modèle de démocratie. En conséquence, il s'est mis en retrait de votre campagne. Vous entendez ces critiques? Vous lui répondez quoi?
Ah ben rien, vous savez, moi avec Robert, je suis assez proche de lui et Béziers est pas loin de Perpignan, donc il a sa liberté de ton et il a toujours eu sur la politique étrangère, je veux dire, ses préférences et ses spécificités.
Mais ils vont jusqu'à se mettre en retrait de la campagne, là.
Oui, enfin, parce qu'il ne veut pas systématiquement qu'on l'interroge sur ce qui le différencie de Marine et jamais sur ce qui le rapproche. Mais il appelle à voter Marine Le Pen, et évidemment, ils nous soutiennent dans cette campagne électorale. Mais c'est un problème de fond. Il va bien y avoir un moment où la guerre va se terminer. Il y aura un accord de cessez-le-feu, et je pense que dans cet accord de cessez-le-feu, Israël, la Turquie, il y a plein de pays comme ça qui ont un rôle majeur. Il faudra bien discuter avec la Russie. Et d'ailleurs, je vais vous dire, la meilleure preuve, c'est qu'on continue à acheter du gaz aux Russes. Bon, alors, moi je veux bien qu'on joue les hypocrites, mais il faut dire à l'Allemagne qu'elle arrête tout de suite, elle coupe le robinet avec la Russie, et on isole, comme la Corée du Nord, la Russie. Est-ce que c'est possible? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est souhaitable pour notre économie aujourd'hui? Je pense que ce serait périlleux. Et puis si on va au bout de la... Moi je regrette, si on va au bout de la logique, Madame Salamé... Il faut arrêter avec toutes les dictatures et tous les pays totalitaires. On arrête avec l'Arabie Saoudite, on arrête avec le Qatar. L'Arabie Saoudite qui est en train de mener une guerre au Yémen avec de l'armement français quand même. Personne ne le dit, ça fait des morts. Voilà, toutes ces choses. On arrête de soutenir des dictateurs en Afrique.
J'entends, hein, mais voilà. Il y a un mot qu'elle a employé. Là, ce matin, vous dites, on va discuter. S'il y a un accord de cessez-le-feu, on discute. Non, elle dit, il faut un rapprochement avec la Russie. Est-ce que vous estimez qu'il faut se rapprocher de la Russie une fois que la guerre s'arrêtera, se rapprocher avec la Russie de Vladimir Poutine s'il reste au pouvoir? C'est-à-dire considérer que l'agression en Ukraine, que les morts, le siège de Mariupol, que les viols, que le massacre de Boutcha n'a pas existé et on reparle à Vladimir Poutine.
Il ne faut pas dire ça.
Non, je vous pose la question.
Enquêtes,
parce que parler aujourd'hui d'un rapprochement avec des agresseurs, c'est un peu étonnant.
Il faudra des enquêtes, des mises en cause. Effectivement, faire même pas la lumière, relever tous les faits de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, etc. Ça paraît évident. Vous savez, moi j'en ai reçu à Perpignan des Ukrainiens et je sais très bien de quoi ils la retournent sur le terrain. Et c'est d'ailleurs, j'allais dire, cette agression russe qui nous a permis en quelque sorte de réviser notre vision au aussi des relations internationales par rapport à cette Europe centrale. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas nous faire la critique. Mais il n'en demeure pas moins que va se poser la question des rapports que nous pourrons avoir demain avec une Russie qui aura fait ce qu'elle a fait, avec les crimes qui vont avec.
Et donc on s'en rapproche.
Mais non, on s'en rapproche pas, on discute. Je vous signale, c'est pas nous qui avons M. Poutine tous les jours au téléphone, mais c'est M. Macron, voilà. Oui. Donc soit on dit que Poutine est infréquentable, il faut arrêter de lui parler, mais pour l'instant, malheureusement, il faut mettre fin à cette agression, parce qu'il y a des morts et des civils aujourd'hui qui en paient le prix.
Il nous reste quelques secondes, deux questions rapidissimes. Il y aura des listes communes aux législatives avec Reconquête, où on aura le choix le jour du premier tour, avec un bulletin Reconquête et un bulletin RN.
Écoutez, j'ai vu que M. Collard avait dit qu'il y aura des candidats à Reconquête partout, donc je fais confiance à M. Collard.
Bon. Vous faites toujours confiance à M. Collard ?
Oui, enfin, dans cette affaire-là, oui.
Marine Le Pen a exclu de gouverner avec Éric Zemmour si elle était élue, vous le regrettez ?
Écoutez, il a dit qu'il ne demandait rien, qu'il ne voulait participer à rien. Je ne vois pas pourquoi on lui demanderait de participer. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a fait 7% à ses élections présidentielles, qu'il a des partisans et qu'il faut aussi leur parler.
Louis Alliot, merci. Porte-parole de la candidate Marine Le Pen, maire RN de Perpignan.